VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Anastasie Tudiech avec vous. Nous sommes le mercredi 12 avril 2017. Il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette deuxième édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, l'Afrique du Sud, où des milliers de manifestants sont à nouveau dans les rues pour demander le départ du président Jacob Zuma. Au Sénégal, la police dit avoir arrêté 3 personnes soupçonnées de terrorisme. Au Tchad, 9 prisonniers ont été assassinés dans une embuscade au nord de N'Djamena. Et Rex Tillerson est à Moscou. Le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec son homologue russe, puis a été reçu par le président Vladimir Poutine. Tout à l'heure, ce seront les pages sport et éco, mais tout de suite, c'est le journal. En République démocratique du Congo, les Nations Unies ont recensé près de 132 arrestations à travers le pays lundi, après des manifestations interdites contre le président Joseph Kabila. C'est lundi en effet que l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, avait appelé à manifester dans tout le pays contre le président Kabila, accusé de ne pas appliquer l'accord politique du 31 décembre. République démocratique du Congo toujours, le nouveau Premier ministre de la République, Bruno Tshibala, a déclaré qu'il comptait financer le scrutin devant désigner le successeur du président Joseph Kabila avec des ressources internes, sans préciser toutefois lesquelles. Et puis le syndicat national des journalistes congolais a appelé à la libération d'un journaliste arrêté selon eux de manière illégale dans le sud-est du pays, Zito Tetela, c'est son nom, est éditeur de l'hebdomadaire La Griffe, paraissant à Lubumbashi, et il a été incarcéré hier mardi. La police sénégalaise a annoncé l'arrestation de 3 personnes, un Nigérian et 2 Marocains, soupçonnés de terrorisme. Plusieurs personnes sont sous les verrous pour leurs liens présumés avec le terrorisme. Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué, la police sénégalaise indique que le ressortissant nigérian arrêté était connu des services de renseignement de son pays. Il s'agit d'un ancien étudiant en informatique venu de la Mauritanie où il a séjourné pendant plusieurs mois. La police le soupçonne d'être venu à Dakar dans le seul but de recruter des terroristes pour le compte de Boko Haram. Dans le même communiqué, la police annonce aussi l'arrestation de 2 Marocains liés à l'organisation État islamique à l'aéroport de Dakar. Ils se sont identifiés en Turquie comme étant des ressortissants syriens et ont réfuté toute appartenance à un groupe terroriste, toute fréquentation de zones de combat, notamment la Syrie et l'Irak, tout entraînement physique ou au maniement des armes, souligne la police. En février dernier, 2 Maliens suspectés d'être liés aux attaques de Grand Bassam en Côte d'Ivoire avaient également été arrêtés dans la banlieue de la capitale sénégalaise. Une 10aine de Sénégalais, dont un imam, attendent toujours d'être jugés pour des activités djihadistes présumées. Les autorités sénégalaises prennent très au sérieux la menace depuis les attaques de Bamako, Ouagadougou et Grand Bassam en 2015 et 2016.
Abdourahmane Dia. Restons au Sénégal pour signaler que c'est le dernier jour aujourd'hui de la visite officielle du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Il a visité notamment la maison des esclaves à Gorée, île symbole de la traite à destination des Amériques, et à Dakar, le musée dédié à Léopold Sédar Senghor, poète et premier président du Sénégal indépendant. La commission électorale nigériane a annoncé avoir suspendu plus de 200 agents accusés d'avoir accepté des pots de vin d'environ 9 millions d'euros pour influencer les résultats du vote dans 16 États lors des élections générales de 2015. Au total, 205 employés font l'objet de poursuites devant la commission des crimes économiques et financiers qui a enquêté sur ces allégations de fraude. C'est ce qu'a annoncé hier soir la commission électorale nationale indépendante dans un communiqué. Au Tchad, en route pour la prison de Korotoro, à l'extrême nord du pays, 10 prisonniers ont été assassinés dans la nuit d'hier à aujourd'hui, à la sortie nord de N'Djamena, dans une embuscade. Un acte qualifié de règlement de compte par les parents des victimes. Plus de précisions, André Kodmajingar.
Condamnés pour la plupart entre janvier et février dernier, 170 prisonniers militaires devraient purger leur peine à la prison de haute sécurité de Korotoro à l'extrême nord de la capitale. Selon des sources concordantes, la complicité serait partie de la maison d'arrêt de N'Djamena. Avant de monter dans le véhicule, quelques prisonniers ont été sélectionnés pour être habillés en tenue militaire. Arrivés à 100 de kilomètres de N'Djamena, des individus bien armés à bord d'une voiture de marque V8 sans immatriculation les ont rattrapés. Ces individus ordonne au chauffeur de s'arrêter et de faire descendre tous les prisonniers habillés en tenue militaire. Un garde nomade qui faisait partie de l'escorte s'est opposé. C'est ainsi qu'il avait eu échange de tirs. Ce mercredi, en fin de matinée, 10 corps sans vie, parmi lesquels ceux des prisonniers et des membres de l'escorte, ont été déposés à la morgue de l'hôpital général de référence nationale de N'Djamena. Les parents de ces victimes rencontrées à la morgue accusent les hautes autorités d'être derrière cette fusillade. Car parmi les victimes se trouverait l'assassin du commandant des forces mixtes Tchad-Soudan RCA, le général Adam Touba, il y a plus d'un mois à la frontière Tchad-Soudan. André Kodumadingar N'Djamena pour VO Afrique.
Le principal opposant zambien, Hakainde Hichilema, a été inculpé pour trahison pour avoir tenté de bloquer le convoi du président Edgar Lungu. Arrêté hier mardi, M. Hichilema est poursuivi avec 5 autres militants de son parti. La qualification de trahison, qui ne permet pas de libération sous caution en Zambie, est passible d'un minimum de 15 ans de prison et, dans le pire des cas, de la peine de mort. La pression monte sur Jacob Zuma, le président sud-africain. Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés aujourd'hui à Pretoria à l'appel de l'opposition pour protester contre la politique menée par le président et demander sa démission. Jacques Aristide.
La marche de ce mercredi s'est achevée devant le siège du gouvernement à Pretoria où cri de Zuma doit tomber. Il s'agit de la deuxième manifestation en moins d'une semaine organisée par l'Alliance démocratique et les combattants économiques de la liberté, les deux principaux partis hostiles à l'ANC. Plus de 60 000 personnes sont descendues dans la rue vendredi dernier après le très controversé remaniement ministériel ordonné par le chef de l'État. Le limogeage du ministre des Finances, Pravin Gordhan, a même provoqué des remous au sein de l'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. Quant à Jacob Zuma, dont le mandat court jusqu'en 2019, il fêtait aujourd'hui ses 75 ans. Il a déjà été confronté à des manifestations de rue, notamment après des soupçons de corruption. Mais l'actuelle contestation semble le menacer plus directement. L'opposition veut faire voter une motion de défiance au Parlement. Le vote est programmé pour mardi prochain, mais l'ANC, qui a resserré les rangs autour de son président, devrait mettre en échec cette dernière tentative.
Les États-Unis ont ajouté aujourd'hui à leur liste noire économique deux chefs de milices centrafricains accusés de contribuer à l'instabilité du pays plongé dans le chaos depuis 2013. Il s'agit d'Abdoulaye Hissène, l'ancien leader des Séléka, le mouvement à dominante musulmane qui avait renversé le président François Bozizé en 2013, et de Maxime Mokom, figure des milices chrétiennes anti-Balaka qui avait lancé la contre-offensive après le coup d'État, provoquant des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Pour Washington, les deux hommes ont uni leurs forces pour perturber un référendum constitutionnel en 2015 et pour fragiliser en 2016 l'autorité du président Faustin Archange Touadéra. À l'issue de ces sanctions, les deux hommes verront leurs éventuels avoirs américains gelés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Premier voyage à Moscou pour Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain. Il y a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov. Une rencontre sous haute tension. Vladimir Poutine a estimé aujourd'hui que les relations entre la Russie et les États-Unis se sont détériorées depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Saloua Jafari.
Nos rencontres d'aujourd'hui viennent à un moment important de la relation afin que nous puissions clarifier nos objectifs communs et les intérêts communs, même lorsque nos approches tactiques peuvent être différentes, et pour clarifier davantage les domaines de fortes différences afin de mieux comprendre pourquoi ces différences existent.
Et des divergences, il y en a beaucoup entre Washington et Moscou, surtout depuis que Donald Trump a bombardé une base militaire de Bachar al-Assad. Au début de l'entretien, M. Lavrov a dit vouloir comprendre les intentions réelles des États-Unis en matière de politique internationale afin d'éviter une récidive de la frappe américaine et de travailler à la création d'un front commun contre le terrorisme. Le président Vladimir Poutine a lui répété dans une interview qu'il ne voyait aucun élément prouvant la responsabilité de Damas. Il a averti contre une répétition du scénario des fausses preuves d'armes de destruction massive en Irak en 2003, prélude à l'invasion qui a fait chuter Saddam Hussein.
Signalons que le président russe Vladimir Poutine a finalement reçu au Kremlin Rex Tillerson pour une rencontre improvisée en présence de Sergueï Lavrov. À l'issue de la rencontre, M. Tillerson a affirmé « Il y a un faible niveau de confiance entre nos deux pays. Les deux plus grandes puissances nucléaires ne peuvent pas avoir ce genre de relations. » Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Pêche illégale en Guinée, des ailerons de requin, une espèce protégée, ont été retrouvés à bord de deux navires chinois arraisonnés lors d'une récente opération de surveillance. Avec l'aide des autorités, le navire de Greenpeace, My Esperanza, a mené en février une campagne de surveillance de la pêche illégale dans les eaux de six pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Guinée, la Sierra Leone et le Sénégal. Les deux navires ont écopé d'une amende de 250 000 euros chacun. Le Cameroun et l'Union européenne ont signé un accord pour une meilleure gestion des ressources forestières. Cet accord de partenariat volontaire a pour objectif de mieux gérer les ressources forestières à travers une surveillance renforcée de l'exploitation du bois. Au sein de l'UE, cette base de données va permettre de mieux contrôler le bois en provenance du Cameroun et ainsi fortement réduire les cas de fraude. Pour doper l'innovation et espérer créer 500 PME, le gouvernement du Burkina Faso a créé un fonds annuel de 2 milliards de francs CFA sur 5 ans pour financer les start-up du pays, ont appris nos confrères de Jeune Afrique. Le fonds Burkina Start-up sera lancé en mai et cible tous les secteurs d'activité. L'initiative gouvernementale tâchera de répondre à l'un des défis majeurs des entrepreneurs africains, l'accès à des financements à un stade précoce de développement.
Place maintenant à l'actualité sportive avec nous en studio, Chérubin Gaby Dorsil. Bonsoir Gaby.
Bonsoir Anna.
Alors, commençons en Europe avec cette attaque perpétrée hier contre le Borussia Dortmund.
Oui, c'était une triple explosion qui a visé le bus qui conduisait l'équipe vers le stade pour disputer un quart de finale de la Ligue des Champions contre Monaco. Il faut dire en passant que le défenseur de club allemand de Dortmund, Marc Bartra, a indiqué aujourd'hui qu'il allait beaucoup mieux. On parle de lui parce qu'il a été opéré du bras après la blessure reçue lors de cette attaque. Bartra, 26 ans, est un élément clé de la défense du Borussia Dortmund. Il a été remplacé par Sven Bender pour le match de ce soir, dont le coup d'envoi a été donné à 16h45 GMT. Des reporters sur place signalent une ambiance d'unité, une grande communion, beaucoup de fraternité, dit l'équipe, mais aussi une forte présence des forces de sécurité.
Gaby, parlons à présent de l'Europa League. Quelles sont les têtes d'affiche pour ce jeudi?
Eh bien, en parlant de têtes d'affiche, il faut mentionner Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Youri Tielemans et Alexandre Lacazette. Ce sont les têtes d'affiche des quarts de finale aller de l'Europa League qui se joueront demain dans la foulée de ce drame de Dortmund. L'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, a essayé de motiver Zlatan et ses coéquipiers en disant que gagner la petite Coupe d'Europe serait le moyen le plus sûr de se qualifier pour la grande. Ils s'opposeront, il faut le dire, aux Belges d'Anderlecht. C'est pas un trop grand défi. Autre match prévu demain, Celta de Vigo contre Genk de Belgique, Ajax d'Amsterdam contre Schalke 04 de l'Allemagne. Match retour le jeudi 20 avril.
Le Mali remporte une victoire sur le Brésil, mais à quel niveau, Gaby?
Ce n'est bien sûr pas au niveau de la sélection. Il faut le préciser, c'est une victoire quand même qu'il faut fêter quand les jeunes joueurs de l'association sportive de Bamako, club de première division malienne, battent leurs camarades brésiliens du FC Fluminense par le score sans appel, écoutez bien, de 8 buts à 3 lors de la troisième journée de la phase de poule de la catégorie U10, les moins de 10 ans, du Mondialito qui se déroule en ce moment au Costa Dorada en Espagne.
C'est impressionnant et c'est un beau résultat quand même. Parlons cyclisme, on met le cap sur le Togo.
L'Ivoirien Issiaka Cissé a remporté la première étape du 26e Tour cycliste international du Togo, dont le départ a été donné hier mardi, et endosse le maillot jaune, selon ce qu'indique l'agence panafricaine de presse à Lomé.
Et on termine avec le basket, la NBA.
Washington, San Antonio, Cleveland sont sur le parquet ce soir. Un vrai régal pour Lionel Gaïma et votre serviteur. Les Wizards jouent contre le Heat en déplacement à Miami. Les Spurs se rendent à Utah Utah pour affronter le Jazz et LeBron James, King James et ses frères Cavaliers accueillent les Raptors de Toronto. Boston qui mène à l'Est recevra Milwaukee et hier soir, 5 rencontres disputées, Atlanta face à Charlotte, Atlanta a gagné, OKC a gagné Minnesota et Denver a battu Dallas, LA a renvoyé Brodou et la Nouvelle-Orléans et Phoenix a baissé pavillon face à Sacramento.
Passion Sport, merci Chérubin Gaby Dorsil.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, place au dossier du jour. Le premier, ce soir, le Mali, où le nouveau gouvernement est connu depuis hier. Le premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a jeté son dévolu sur 35 personnes. Que pensent les habitants de Mopti de ce nouveau gouvernement? Quelles sont leurs attentes? Notre correspondant Mamoudou Bokoum s'est intéressé au sujet. Voici son compte-rendu.
Le nouveau gouvernement de la République du Mali est désormais connu. Beaucoup de nouvelles têtes font leur entrée contre quelques départs. Dans ce gouvernement d'Abdoulaye Idrissa Maïga, 23 ministres gardent leur portefeuille contre 2 qui changent de poste. Cette équipe de 35 membres comporte 8 femmes comme par le passé. Que pensent les mopticiens de ce nouvel attelage gouvernemental? Voici leur réponse.
Cette nouvelle équipe, pour moi, rien n'a changé. Parce que c'est les mêmes hommes depuis l'avènement de la démocratie jusqu'aujourd'hui qui nous gouvernent, qui ont fait leurs preuves et leurs limites. Il faut passer vers l'alternative, changer d'autres hommes qui sont valables aussi dans ce pays-là.
Ce que j'attends d'eux, c'est que toutes nos attentes soient comblées, surtout la crise de la santé et de l'école.
On est pris un peu au dépourvu. Sinon, bon, on s'attendait quand même à peut-être des changements de personnes. Peut-être que le peuple souhaiterait avoir quand même de nouvelles têtes pour négocier avec de nouvelles têtes. Il peut y avoir de nouvelles idées et les gens peut-être serait beaucoup plus compréhensible.
Bon, vraiment, je suis fier de cette équipe puisque le gouvernement, c'est l'État en entier. Donc, tous les acteurs de ce pays doivent composer ce gouvernement. Je crois que vraiment, concernant le travail, nous comptons beaucoup sur eux.
Pour la population de la Venise malienne, les attentes sont nombreuses et les défis à relever sont grands, comme il le témoigne ici.
Notre attente, c'est qu'il arrive à juguler rapidement le problème dans lequel nous trimons maintenant. Parce qu'il faut que l'école reprenne, il faut que la santé reprenne.
Nous attendons vraiment une solution au défi qui menace l'État, qui est le souci de tout le monde. La paix, que la paix revienne, la réconciliation, et aussi on parle aussi de l'impunité là. Puisqu'il n'y a pas de paix aussi, tant qu'on ne corrige pas l'impunité.
Cette équipe a beaucoup de défis à relever. Tout le monde sait, le premier problème, c'est le problème sécuritaire. Le deuxième problème, c'est la mise en œuvre de l'accord de paix. Le troisième problème, c'est l'organisation des élections régionales et les élections au niveau des cercles. Si quand on regarde aujourd'hui le pays, c'est que vraiment il y a une grande méfiance du peuple par rapport aux responsables. Donc ce gouvernement doit vraiment créer la confiance entre eux et la population.
Ce quatrième gouvernement d'Ibeka en 3 ans devrait prendre le taureau par les cornes pour sortir le pays dans cette situation qui a tant durée. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Africa.
Dans Washington Forum ce jeudi, on décrypte la polémique autour de la CPI. Après le Burundi, l'Afrique du Sud menace de partir. Jamais aucun pays dans le monde n'a encore quitté la Cour pénale internationale. Premier tribunal international permanent chargé de poursuivre les auteurs présumés de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. À ce jour, seuls 123 États adhèrent à ce traité. Sur le continent africain, la politique de deux poids, deux mesures est régulièrement critiquée. Pourquoi ce sentiment d'une justice à deux vitesses? Quelles sont les limites de la CPI? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Boko Haram a de plus en plus recours aux enfants pour perpétrer ses attaques kamikazes au Nigeria, au Niger, au Cameroun et au Tchad. Selon l'UNICEF, au premier semestre 2017, 27 enfants ont été utilisés par les terroristes nigérians. L'organisation onusienne accuse aussi l'armée de les traiter en criminels, détenus dans des casernes et sans suivi médical. Au micro de Morgane Guiriec, on écoute Christophe Bouliérac, qui est porte-parole de l'UNICEF à Genève.
utiliser des enfants et notamment des filles a pour eux l'avantage de ne pas être détectés, de parvenir à des lieux publics sans attirer l'attention. Cela crée un sentiment de suspicion, ça ajoute une deuxième épreuve à ces enfants qui ont vécu des traumatismes effroyables, mais souvent malheureusement ils doivent garder leur histoire terrible secrète pour ne pas éveiller la stigmatisation. Le plus important, c'est surtout de considérer que ces enfants sont avant tout des victimes. Ce ne sont surtout pas des auteurs. Il n'est pas clair que tous comprennent pourquoi on leur met une ceinture d'explosifs autour du corps. Parfois, ils font même l'objet de représailles violentes de la part des communautés qui ont peur.
Et de même, du côté des autorités, ils sont souvent traités comme des criminels ?
Les enfants ne doivent pas être détenus. Alors, il est compréhensible que lorsque les enfants arrivent à s'échapper, les autorités militaires veuillent savoir si ces enfants sont toujours sous l'emprise de ce groupe. Mais cette recherche d'informations ne doit pas durer longtemps parce que ce dont ils ont besoin, ce sont des services de soutien psycho-émotionnel. C'est d'abord le droit à l'éducation, le droit à la santé. La priorité avant tout est guérir parce que cela ne part pas comme cela, retrouver une vie la plus harmonieuse.
Ces enfants, qui sont-ils ?
On parle souvent des filles de Chibok, mais en plus d'elles, il y a des milliers d'enfants en captivité. Sur les 117 enfants, depuis 2014, qui ont été utilisés pour mener des attentats suicides, comme je vous le disais, nous pensons qu'il y en a 80% qui sont des filles entre 14 et 17 ans. Beaucoup de ces filles sont mariées, elles sont violées, elles sont utilisées à des tâches domestiques. Des garçons, après cette période de transition, sont souvent utilisés pour des tâches logistiques et parfois militaires. Mais encore une fois, nous voyons beaucoup de filles, toujours pour éviter d'attirer l'attention pour ces groupes, notamment parce que ce sont des filles et ensuite parce qu'elles ont des habits qui peuvent permettre de recouvrir les explosifs.
Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF à Genève.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La région du bassin du lac Tchad est frappée par une crise alimentaire sévère qui touche le nord du Nigeria. Cette situation est causée par la pauvreté, la malnutrition, les conflits et les effets du changement climatique. Le Programme alimentaire mondial s'est rendu récemment sur les lieux. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Dakar le directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Abdou Dieng. Écoutons-le.
Ce que j'ai vu là où on appelle l'épicentre de la crise sur le nord-est du Nigeria, c'est des millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire et qu'il va falloir assister rapidement. Ces personnes, non seulement sont en insécurité alimentaire et dans les mois qui viennent, à partir du mois de mai, la situation va être un peu plus compliquée parce qu'on va dans ce qu'on appelle la période de soudure. C'est cette période début de la saison des pluies, avant les récoltes, bien sûr, qui vont se faire après. Cette région, comme vous le savez, les populations ont été attaquées par des groupes djihadistes, Boko Haram, ce qui a créé des millions de personnes qui sont déplacées et qui sont en insécurité alimentaire chronique. Ces personnes pourraient se retrouver dans des conditions de famine. Et quand on parle de famine, ça veut dire des morts.
Est-ce que les pays dont ces personnes frappées par cette crise sont originaires, ils ne font rien jusque-là?
Il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais le problème, il est très compliqué. Vous avez une crise autour du bassin du lac Tchad avec épicentre le Nigeria, et cette crise affecte le Cameroun, particulièrement le Nord Cameroun, affecte le Niger et affecte le Tchad. Si vous prenez le Tchad, non seulement aujourd'hui, ils subissent les contre-coups de la crise au nord-est du Nigeria, et le Tchad était déjà affecté par d'autres crises, je veux dire la crise centrafricaine, sans compter la crise soudanaise. Si vous prenez le Niger, aussi affecté par cette crise et aussi affecté par la crise malienne. Le Cameroun souffre de la crise autour du bassin du lac Tchad et le Cameroun souffre aussi de la crise centrafricaine.
Vous tirez sur la sonnette d'alarme pour qu'il y ait justement une assistance d'urgence. Est-ce que c'est une situation qui est maîtrisable sur combien de temps?
Elle est maîtrisable si on agit tout de suite. Et quand je dis tout de suite, c'est maintenant. Rien qu'en matière d'aide alimentaire, les besoins estimés pour couvrir cette période de maintenant jusqu'au mois de septembre, c'est environ 250 millions de dollars. Et ces ressources doivent être disponibles maintenant pour assister ces personnes. Et si on le fait maintenant, on peut éviter la famine. Si on ne le fait pas, on pourrait se retrouver dans une situation de famine, ce qui serait extrêmement grave pour, je dirais pas simplement le nord-est du Nigeria, je ne dirais simplement pas le Nigeria, mais pour la région ouest africaine.
Le témoignage d'Abdou Dieng, le directeur général du PAM, régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à Dakar.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de la transmission du VIH-SIDA de la mère à l'enfant.
En l'absence d'intervention, les taux de transmission vont de 15 à 45%. Des interventions efficaces permettent toutefois de ramener ces taux à des niveaux inférieurs à 5% selon l'OMS.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Musique à présent dans le monde aujourd'hui. Salif Keita, star de la musique africaine, était en concert dimanche à Washington. The Golden Voice of Africa a fait danser les fans sur ses titres phares pour récolter des fonds pour la fondation Salif Keita qui œuvre pour la protection des personnes vivant avec l'albinisme. Arzuma Compaoré est allée à la rencontre de l'artiste malien.
Ça se passe très bien parce que ça faisait longtemps que je ne venais pas et puis aussi ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé de la fondation. Chaque fois que je viens ici, la diaspora vient avec son support, me reconforter le moral, danser avec moi et savourer les concerts avec moi. Et ça, vraiment, c'est infailliblement nécessaire pour ma vie.
Comment Salif aujourd'hui arrive à continuer à être une star, à inspirer des milliers de fans?
Personne ne peut se faire star. C'est les gens qui te font une star. Quand je fais mes disques, je le fais pour le monde. Tu peux pas faire tout ce que tout le monde aime. Tu fais ce que tu aimes et les autres en profitent. Ceux qui aiment ce que tu fais sont avec toi.
J'ai entendu Salif dire une fois que la culture, c'est le pétrole pour les Africains.
Tous les Africains se retrouvent dans les cultures. Toutes les nations qui se sont faites bien, souvent, les 90% se sont faites à partir de leur culture de base. Il ne faut jamais oublier ça.
On va repartir un peu dans le passé. Mm-hmm. J'aimerais que Salif nous dise un peu quel est son meilleur souvenir d'enfance.
Quand j'avais 18 ans, j'étais un très bon élève. Une fois, au seuil de l'examen, on m'a mis à la porte. Parce que j'avais pas une bonne vue, j'avais une mauvaise vue. Donc ils se sont donné la main, ils ont cotisé pour m'acheter des verres correcteurs. Ce geste m'est resté et ça m'est resté là jusqu'à la mort parce que mon premier concert avec le Ray-Ban, ils étaient tous là aussi. Wow. Et il y avait certains parmi eux qui avaient des larmes aux yeux.
Wow. Ce qui nous amène à parler justement de la fondation. Comment ça se passe aujourd'hui? Quels sont les grands projets pour cette fondation?
Les grands projets, c'est sensibiliser le monde entier pour la cause des albinos. Et souvent, les albinos viennent avec des cancers déjà développés. Il faut avoir la possibilité de leur donner des crèmes solaires, de leur procurer des crèmes solaires, de les sensibiliser sur la fragilité de leur santé. Dans des pays, ils sont sacrifiés, coupés par un morceau et vendus même sur le marché noir, dans le marché noir. Ça, c'est des choses qu'il faut combattre.
Qu'est-ce que c'est que l'amitié pour toi, Salif? Tu as un grand ami aujourd'hui?
Mon grand ami, c'est la musique. Parce que c'est à travers la musique que les gens m'aiment. C'est à travers la musique que les gens veulent me voir. C'est à travers la musique que je m'exprime et que je parle pour les gens qui n'ont pas l'opportunité de parler et qui ont besoin de moi.
Retiendra les mots de l'artiste, le pétrole, c'est la richesse, la culture, c'est le pétrole de tous les Africains, c'était Africa de Salif Keita, bien évidemment, extrait de l'album Folon paru en 1995. C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui, mise en onde par Sims Loumami et présentation Anastasie Kuliesh. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. Restez avec nous pour l'information en continu.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.